Bonjour Historama, l'histoire d'un jour. Aujourd'hui, le 14 avril 1931, nous partons en Espagne avec l'abdication du roi Alphonse XIII. Alphonse XIII naît en 1886. Il est le fils posthume du roi Alphonse XII. Il débute son règne en 1902, alors que l'Espagne se remet à peine de la guerre hispano-américaine de 1898. La grave crise économique de 1917 altère son prestige. L'instabilité du régime parlementaire, l'agitation sociale, la montée de l'anarchisme, la guerre du Rif conduisent à la dictature, longtemps populaire du général Primo de Rivera, qui gouverne de 1923 à 1930. Le 12 avril 1931 se déroulent des élections municipales. Les grandes villes sont favorables au parti de gauche. Les campagnes demeurent fidèles à la couronne. Deux jours plus tard, la République est proclamée à Madrid, place d'Orient, face aux grilles du Palais Royal. La foule survoltée s'agite. Des cris, des insultes, des huées sont perceptibles. C'est l'allégresse féroce d'un peuple enivré par une victoire dont la stupéfiante facilité l'étourdit encore. À 45 ans, Alphonse XIII possède une véritable gueule de roi. Le profil est celui d'un rapace. La lèvre inférieure en gargouille et la mâchoire insolemment lancé en avant sous l'effet d'un vieil impératif héréditaire. Le front est haut, les tempes sont dégarnies, l'œil charbonneux se révèle insistant. Le roi se tient très droit, son corps mince et musclé épouse de près l'uniforme auquel chacun de ses gestes confère une allure, une majesté menaçante. Bourbon à fleur de peau, il est solitaire, mélancolique, distant, courtois mais hautain. Son humour est sombre et macabre. En 30 ans de règne, il affronte de nombreuses crises politiques et échappe à de multiples attentats. Son courage physique est légendaire. Alphonse XIII convoque le général José Sanhorio. Il l'interroge sur son attitude en cas de répression. La réponse est limpide, on peut compter sur mes hommes et sur moi-même pour le maintien de l'ordre, non pour le maintien du régime. À peine sorti de son audience avec le souverain, le chef de la garde civile se précipite au siège du comité révolutionnaire pour assurer Alcalá Zamora de sa neutralité. Pris de peur, le futur président de la République espagnole tente de s'enfuir par une fenêtre. Le 14 avril à midi, le comte de Ramonès, chef du Parti libéral, prend contact au nom du roi avec Alcalá Zamora pour rechercher une solution de conciliation. Les républicains sont fermes, ils exigent le départ du monarque. Le comte de Ramonès conseille à Alphonse XIII de s'incliner, la renonciation est inévitable. Le roi s'assied à sa table de travail, il saisit une plume fichée dans son encrier d'argent et de son écriture haute et pointue rédige son ultime proclamation au peuple espagnol. Il estime que les élections générales prouvent que l'amour des Espagnols ne lui est plus acquis, mais il considère ce désamour comme temporaire. Il reconnaît qu'un souverain puisse se tromper, cependant il rappelle que l'Espagne a toujours eu l'élégance de pardonner les erreurs exemptes de malice. Enfin, il affirme avoir encore les moyens de défendre par les armes ses prérogatives royales. Toutefois, il se déclare incapable d'engager une lutte fratricide entre Espagnols. Il renonce à aucun de ses droits qui constituent un dépôt de l'histoire et non pas un bien personnel. Il annonce qu'il suspend délibérément le pouvoir royal pour que la nation puisse agir en maîtresse souveraine de son destin. Ainsi, l'avenir est sauf. Suite à sa déclaration, Alphonse XIII fait ses adieux à l'héritier du trône, le prince des Asturies, son fils aîné. Le prince hémophile au dernier degré tient à peine debout. Son père l'embrasse, il fond en larmes. Le roi rejoint ensuite les appartements privés de la reine Donna Victoria Eugenia, l'attend entourée des infants Don Jaime, Don Gonzalo et les infantes Donna Cristina et Donna Beatrice. Seul Don Juan, comte de Barcelone, est absent. Alphonse XIII les embrasse et dit à son épouse d'une voix à peine audible « Je vous confie tous à la sauvegarde du peuple espagnol ». Il dîne légèrement avec son cousin, Don Alfonso d'Orléans, puis, une cigarette à la bouche, il pénètre dans sa chambre à coucher et décroche du mur un crucifix en ivoire, ainsi que le fanion mauve des Bourbons, qu'il enroule avec soin avant de le placer dans son nécessaire de voyage. À 20 heures précises, Alphonse XIII paraît en haut du grand escalier de marbre qui mène de l'étage noble à celui des appartements privés. Il est habillé d'un costume en tweed gris et porte la main un chapeau dont le ruban est orné d'une plume de faisan. Des serviteurs et des hallebardiers de sa garde personnelle l'entourent. Il cache sa déception. Au pied de l'escalier, le commandant de la garde royale, Don Rufino Luca, lance de toutes ses forces un vibrant « Viva el Rey ». Le souverain déchu descend les marches avec une lenteur voulue. Il s'arrête, étreint des mains qui se tendent, serre certains contre sa poitrine, embrasse parfois. Une grande voiture découverte, moteur déjà en marche, l'attend. Un instant, il regarde intensément une dernière fois le palais Oriente. Se ressaisissant, il salue longuement de la main l'ultime carré de ses partisans, puis il se met au volant. Le cortège se dirige vers Carthagène, où Alphonse XIII embarque à bord d'un croiseur de la marine espagnole en direction de Marseille. Il rédige deux proclamations, l'une destinée à l'armée, l'autre à la marine. Il remercie marins et soldats de leur loyauté envers la couronne et supplie les uns et les autres de continuer à servir la patrie avec la discipline et l'efficacité qui ont toujours fait la gloire des deux institutions militaires. Monarque exilé, Alphonse XIII accompagne le comte de Barcelone en Angleterre où il poursuit ses études. En 1936, il se fixe en Suisse. 5 ans plus tard, sentant sa mort prochaine, il abdique en faveur de Don Juan. Il décède à Rome le 28 février 1941. Nous allons marquer une pause musicale avant de retrouver la chronique littéraire « Un jour, trois livres » qui a été préparée comme chaque semaine par Emmanuel. Ce sont les Beatles qui nous accompagnent en chanson durant cette émission. Nous écoutons un titre de 1965 de l'album « Help Yesterday », l'un des plus grands succès du groupe anglais.
Yesterday, all my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly, I'm not half the man I used to be. There's a shadow hanging over me. Oh, yesterday came suddenly. Why she had to go, I don't know, she wouldn't say. I said something wrong, now I long for yesterday. Yesterday, love was such an easy game to play. I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Why she had to go, I don't know, she wouldn't say. I said something wrong, now I long yesterday. Love was such an easy game to play. Now I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday.
Vous écoutez Historama, l'histoire d'un jour, la chronique littéraire, un jour trois livres qui a été préparé par Emmanuel, qui nous emmène pour commencer en Égypte avec Ramsès III, le dernier des géants de Christian Jacques aux éditions Ixo. Ramsès III, 1186-1154 avant notre ère, grand admirateur de Ramsès II, son prédécesseur de près de 20 ans, avec lequel il n'avait aucun lien de parenté, je tiens à le préciser, a affronté des épreuves que seul un roi d'une envergure exceptionnelle peut surmonter sur près de 31 ans de règne. Se heurtant à deux tentatives d'invasion menées par les peuples de la mer, il crée une marine de guerre et remporte la première bataille navale de l'histoire. Mais l'ennemi le plus redoutable surgit de l'intérieur, la corruption qui gangrène son royaume et un dignitaire qui se fait appeler Ténèbres, maniant la magie noire et s'entourant d'une poignée de félons. C'est pour Ténèbres, oublier nos traditionnels héros et leurs qualités, la vigilance du vieux, chargé de la sécurité du roi et de son assistant. L'âne vent du nord, les meneurs seront-ils arrêtés et condamnés au suicide volontaire? Il s'agit de la conspiration criminelle la mieux documentée de l'histoire égyptienne, à consommer sans modération pour tout amateur de l'antiquité égyptienne et des romans policiers. Ramsès III, le dernier des géants, c'est signé de l'égyptologue Christian Jacques et c'est publié aux éditions XO. La lumière du bonheur, la traversée des temps, c'est le tome 4, c'est signé Éric Emmanuel Schmitt et c'est publié aux éditions Albin Michel. En raison d'une prophétie de la Pythie de Delphes, la rencontre d'une ravissante athénienne, et voilà scellé le sort de Noam, qui débarque en Grèce au 5e siècle avant notre ère. Saura-t-il conquérir sa place dans cette ville de tous les possibles sensuels et amoureux, où sont en train de naître la démocratie, le théâtre et la philosophie? Comment lui, ce métèque, cet étranger, pourra-t-il obtenir la citoyenneté athénienne pour pleinement participer à la vie de la cité, aux festivités, aux concours d'éloquence, voire aux Jeux olympiques qui commencent quelques mois plus tard? À l'ombre de l'acropole et des statues des dieux dans les pas d'Aristophane et de Socrate, à la rencontre du médecin Hippocrate, du grand stratège Périclès ou de sa compagne, la troublante Aspasie, nous voici donc transférés aux sources de notre civilisation occidentale. À consommer sans modération par tout amateur de l'Antiquité grecque et de la recherche d'une certaine philosophie du bonheur. La lumière du bonheur, la traversée des temps, c'est le tome 4, c'est signé Éric Emmanuel Schmitt, c'est publié aux éditions Albin Michel. Et nous terminons cette chronique avec L'étreinte de la bise d'Alain Delage aux éditions De Boré dans la collection Terre d'écriture. En 1893, Armand Ligourel, jeune conscrit libéré de son service militaire, est de retour auprès de sa famille sur le plateau de l'Aubrac. Le courrier d'un notaire lui apprend qu'il est l'héritier de biens provenant d'un grand-oncle que celui-ci souhaitait léguer à sa servante avant qu'elle ne soit déclarée décédée quelque temps plus tôt. Mais rapidement, Armand trouve des indices troublants sur la destinée de la servante. Dans quelles circonstances Jeanne a-t-elle réellement disparu? C'est toute la question qui se pose dans ce roman signé Alain Delage, L'étreinte de la bise. C'est dans la collection Terre d'écriture aux éditions De Boré. Ainsi s'achève cette émission. C'est en chanson que nous allons nous séparer avec toujours les Beatles. Nous écoutons un titre de 1970, Hey Jude. Merci à Thomas qui a réalisé cette émission. Je vous retrouve la semaine prochaine.
Hey Jude, don't make it bad. Take a sad song and make it better. Remember to let her into your heart. Then you can start to make it better. better. Hey Jude, don't be afraid. You were made to go out and get her. The minute you let her under your skin, then you begin to make it better.